Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live version podcast. Nous sommes le 9 juin 2021 et aujourd'hui, je vais essayer de partager mes pensées avec vous. Partager mes pensées parce que on a le sentiment que le marché ne fait plus rien. Alors, bien entendu, il faut regarder, faut faire la différence entre marché et marché. Mais disons qu'aujourd'hui, on a les indices qui ont l'air d'être collés au plus haut de tous les temps et qui ne veulent pas baisser, malgré une certaine prudence, malgré certaines craintes au niveau inflation. On va pas revenir pour la 15e fois sur le sujet. Pas grand-chose qui se passe, des indices qui sont au plus haut de tous les temps. Et puis, on a le sentiment que bah, ça veut pas y aller, mais en même temps, ça veut pas baisser. Je suis tombé sur un article ce matin qui disait justement Never short a dull market. Enfin, ne shortez jamais un marché qui est tout mou comme ça et qui a l'air de faire rien du tout parce que généralement ça finit pas dans la bonne direction. Donc effectivement aujourd'hui on sait que quand on a des volatilités très basses comme aujourd'hui, puisque la VIX est à des niveaux pas historiquement bas mais qui sont venus bien bas par rapport à ce qu'on a vécu durant la période de la pandémie. Eh bien, on se retrouve dans une zone un petit peu délicate et mon sentiment global, c'est qu'on pourrait quand même casser à la hausse et aller faire des plus hauts historiques. Alors, c'est vrai qu'on se dit toujours, on a un marché d'été avec des volumes en baisse parce que les gens sont en vacances, qu'ils pensent à faire autre chose que de la bourse. Mais finalement, depuis quelques temps, on s'est déjà rendu compte que l'été était aussi actif quand même en termes de dynamique de marché. Peut-être pas de volume, effectivement, il y a vraiment moins de monde. Mais en tout cas, en termes de dynamique, ce n'était pas forcément décevant. Et aujourd'hui, ben voilà, les marchés sont au plus haut, ne veulent pas baisser. Donc on peut quand même se poser des questions. Après, quand on regarde un petit peu des titres, les gros titres, hein, ceux qui vont faire bouger le marché, des boîtes comme Amazon, des boîtes comme Apple, ils sont tous très bien positionnés pour décoller à un moment ou à un autre. Alors pour l'instant, c'est dur, hein, on voit que c'est très dur, c'est pas là où se place l'intérêt des investisseurs. Mais quand même, on a l'impression qu'ils sont en embuscade. Voilà, tous sur des tendances haussières. Amazon est sorti de son canal, de son triangle latéral pour aller retester maintenant l'ancienne résistance qui est devenue support et qui a l'air parfaitement positionnée pour redémarrer. Apple est sur une tendance haussière. Donc si on parie sur le fait que ces deux boîtes-là, à un moment ou à un autre, vont commencer à démarrer, c'est ce qui va nous permettre de casser à la hausse. Et c'est surtout ce qui nous permettra d'empêcher de se planter vraiment, puisque sans la baisse de ces grands noms, on n'arrivera pas à avoir une vraie correction de toute manière. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans ce début de saison, cette période un peu molle, où on se demande ce qu'il faut faire et où tout le monde analyse les chiffres économiques et se pose beaucoup de questions. Après, dans l'actualité du jour, on a toujours un peu les mêmes thèmes, hein. Il n'y a pas de grandes manœuvres. On a eu 2-3 détails sur Tesla. Il semblerait que les derniers chiffres des ventes ne sont pas si catastrophiques que ça. Le titre est monté relativement bien durant la séance, mais pour terminer relativement faible ou quasiment inchangé. Et puis, il y en a toujours nos amis de Wall Street Bet qui sont en train d'étendre leur pouvoir, puisque depuis récemment, eh bien, on a le marché qui est en train de partir dans une direction beaucoup plus large, en fait, simplement parce qu'avant, on se concentrait sur AMC, sur GameStop, et puis un petit peu sur BlackBerry et sur Nokia. Mais aujourd'hui, on a rajouté deux nouvelles victimes, entre guillemets, à notre tableau de chasse, enfin à leur tableau de chasse plutôt. Il s'agit de Wendy's, les hamburgers, et puis et l'autre, c'est Clover Health. Alors, Clover Health, c'est un SPAC. Qui appartient à un hedge fund manager qui est sur la santé. Et donc du coup, bah, Clover Health a explosé littéralement d'hier de 85%. Il est passé de quasiment 12 dollars à 22. Donc visiblement, quand on voit la puissance de feu qu'ils ont ces derniers temps, c'est pas forcément terminé. En fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, on reprend la vieille méthode. Hein, on cherche les titres les plus shortés et puis après, on fait chauffer la mayonnaise dessus et tout le monde vient mettre des posts sur Wall Street Bet. C'est chaud bouillant. On va se buter les hedge funds. Et puis effectivement, on se bute les hedge funds. Alors ça marche plutôt pas mal. Ça ressemble de plus en plus à une secte quand même, un tout petit peu, et la manière de se comporter et les perceptions surtout qui nous vendent. Alors voilà, pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, c'est eux qui gagnent. Le risque quand même, c'est qu'un jour, ce genre de truc, bon, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de le dire, mais bon, le risque, c'est qu'un jour, ça arrête de fonctionner. Et le jour où ça arrêtera de fonctionner, ça risque de faire très, très, très bizarre. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Autrement, franchement, c'est très mou. On notera quand même une certaine résurgence des cas de Covid en Chine, dans certains ports maritimes, ce qui pourrait être un problème à terme. Et puis, une autre problématique dont on commence à parler aussi, c'est le retour du Covid à Taïwan. Pas mal de cas de Covid également sur l'île de Taïwan. Et puis, surtout, ça se spread en direction des usines de semi-conducteurs. Alors, j'ai pas besoin de vous faire une théorie pour vous expliquer que si on part directement, on reconfine les usines de semi-conducteurs. Eh bien, je vous laisse imaginer ce que ça va donner, sachant qu'il y a déjà un monstre shortage dans le secteur. Donc, on espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, évidemment, c'est le variant Delta qui fait du mal dans cette région. Le variant Delta qui équivaut à l'ex-variant indien, mais qu'on n'a plus le droit de dire variant indien parce que c'est discriminatoire. Donc, du coup, eh bien, on repart un petit peu dans cette thématique. Alors, pour l'instant, c'est que des entrefilets dans la presse, mais il faudrait pas que ça devienne un petit peu trop important ces prochains jours. Aujourd'hui, je vais m'abstenir de vous donner l'idée du jour parce que j'avoue que j'ai scanné pas mal de titres ce matin, mais j'ai rien trouvé qui m'était séduisant au niveau technique. J'en ai deux, trois qui me plaisent bien, mais j'aimerais encore attendre un petit peu avant de sauter dedans sans précipitation. Par contre, au niveau des questions. Alors, la première question, j'en ai pris trois ce matin. La première question, c'est apparemment sur Swissquote, il faut répondre à un questionnaire pour pouvoir trader les options et futures. Un questionnaire auquel je n'arrive pas encore à répondre correctement en tous les cas. Est-ce que Swissquote ou quelqu'un d'autre propose une formation ou un webinaire dédié aux connaissances nécessaires pour investir sur ces produits? À ma connaissance, c'est la grande question du moment, c'est où est-ce qu'on peut apprendre les choses de base, comment est-ce qu'on peut trouver des trucs de base. Alors, il y a évidemment plein de sites qui vous donnent des informations et qu'est-ce qu'une option, qu'est-ce qu'un put, qu'est-ce que veut dire long put, qu'est-ce que veut dire short put, qu'est-ce que la volatilité. Tout ça, vous pouvez trouver en cherchant un peu sur Internet. Je ne vais pas vous donner les noms et les adresses, mais il y en a pas mal qui le font. C'est vrai qu'en vidéo, c'est plus difficile à trouver parce que c'est souvent payant. Tout ce que je peux dire, c'est que on y travaille, on va dire ça comme ça. Et puis, autrement, moyennant finance, moi, je peux répondre aux questions à votre place. Non, je rigole. Mais enfin, ceci dit, c'est quelque chose sur lequel on y travaille et on y réfléchit et on y reviendra. Question 2, que pensez-vous de Partners Group? L'action est montée de 30% depuis le début de l'année et n'arrête pas d'ailleurs de monter depuis 5 ans. Pensez-vous que ça va continuer et quel est le risque en cas de chute des bourses? Alors, en Partners Group, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que leur boulot, c'est de faire du private equity. Donc, par essence, les produits qu'ils proposent ne sont pas impactés par les mouvements financiers des bourses, puisque les actions dans lesquelles ils sont investis ne sont pas cotées en bourse. Donc, on va dire que c'est une société qui fait des fonds, mais qui ont l'avantage de ne pas être tributaires des mouvements boursiers, puisque les performances de leurs fonds ne vont pas être impactées, puisqu'elles sont simplement calculées avec des prix théoriques. Donc c'est le gros avantage. Et c'est vrai aussi, quand quelqu'un investit dans du private equity, il a tendance à avoir un horizon d'investissement qui va en général au minimum de 5 à 8 ans pour aller jusqu'à 20 ou 25 ans. Donc il n'est pas trop préoccupé par les courts termes, les mouvements court terme et le bruit du marché, comme je le mentionne souvent. Donc l'avantage quelque part, c'est que finalement, Partners Group, ils ont beaucoup d'assets sous gestion, ils prennent des commissions relativement élevées parce que le private equity est un business où les commissions sont relativement élevées. Et puis du coup, ils ont peu de mouvement dans les fonds puisque par principe, vous n'avez pas le droit de ressortir quand vous voulez. En tout cas, les délais sont extrêmement longs. Donc du coup, c'est relativement stable comme business. Ils payent des dividendes. Alors, il y a 3-4 ans en arrière, le dividende était super sexy. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 10% de rendement du dividende, mais ils payent des dividendes. Et puis leur performance est de plus en plus intéressante. Et quand vous discutez aujourd'hui avec les gens qui doivent faire de l'investissement sur le long terme, eh bien on parle de plus en plus de private equity parce que ça baisse une partie de la volatilité dans votre portefeuille. Par contre, ça augmente la durabilité, la durée, et si on veut bien, l'investissement, puisqu'effectivement vous avez moins accès aux liquidités. Donc je pense que c'est une belle action, relativement bien construite, une belle société, solide, durable, qui est là depuis bien longtemps et qui devrait continuer. continuer à performer relativement bien. Et quel serait le risque en cas de chute des bourses? Bah, j'ai envie de dire un peu moins que le reste, et puisque globalement, comme je vous l'ai expliqué, ils sont moins exposés à cette thématique et leurs clients ne vont de toute façon pas pouvoir s'enfuir. Et puis, bon, la seule chose qui pourrait impacter Partners Group en cas de chute des bourses, d'ailleurs, on le voit quand il y a des grosses corrections, eh bien, c'est simplement l'allocation indicielle, c'est-à-dire que quand tout le monde commence à tout balancer au mieux, eh bien, vous avez également les titres qui sont dans l'indice, qu'on prenne plein la figure. Et comme Partners Group est dans le SMI, s'il y a un sell-off général, ils vont passer avec l'eau du bain. Donc, il peut y avoir une correction, mais l'amplitude de la correction devrait être clairement moins forte que sur une action classique. Question numéro 3, on me demande comment acheter de l'argent en Europe via des ETF, parce que je sais que certaines plateformes ne donnent plus accès aux ETF américains et se concentrent uniquement sur les ETF européens et que c'est pas facile de trouver qui sont les partenaires et ceux qu'on peut jouer. Alors, pour jouer un ETF sur l'argent, vous en avez deux. Il y en a un qui s'appelle PHAG, Patrick Henry André Gérard, qui se traite sur Londres principalement et sur Milan. C'est le Wisdom Tree Silver quelque chose. Et c'est un tracker qui vous permet de jouer l'argent via l'Europe. Et puis, en plus, il est backé par du physique. Même chose au niveau du physique sur le ZSIL en Suisse. Alors, Zurich Suzanne Ida Louis, qui est un tracker argent, mais qui est à cette fois est basé en Suisse. Donc voilà, sur ces deux-là, normalement, vos plateformes sont censées vous laisser accès si vous êtes européen. Il ne devrait pas y avoir de problème légaux pour avoir accès à ce type de produit. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous sommes dans une journée d'été, nonobstant la météo que l'on peut constater jour après jour à l'extérieur. Moi, je vous retrouve demain, comme d'habitude, au même endroit, ou alors carrément sur la chaîne Suisse Côte Suisse pour avoir l'image en plus du son. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis déjà à demain.